le 7-9.
Il est 7h47. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est procureure de la République antiterroriste et dirige le parquet national antiterroriste.
Bonjour Jean-François Ricard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. C'est le parquet national antiterroriste que vous dirigez depuis 2 ans qui, cette semaine, portera l'accusation au procès hors norme des attentats les plus meurtriers qu'ait connu la France. Ceux du 13 novembre 2015 à Paris, c'est-à-dire à la fois les attentats du Bataclan, des terrasses, des cafés et du Stade de France. 130 morts, on le rappelle, et 10 fois plus de blessés. Sophie Parmentier le disait tout à l'heure dans le journal, ce procès, c'est un dossier d'instruction d'1 million de pages. C'est 1800 parties civiles, 300 avocats, une salle spéciale immense construite pour l'occasion. Par son ampleur, par son ambition, peut-on dire que c'est le procès du siècle en France ? Et est-ce un véritable défi d'organisation pour la justice ?
Un défi d'organisation, certainement. Le procès du siècle, je n'emploierai peut-être pas cette expression, mais certainement un procès hors norme. Vous avez rappelé à l'instant des chiffres, ils sont tout à fait éloquents et je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais au-delà de ces chiffres, au-delà du procès hors norme, il y a également, il ne faut surtout pas l'oublier, une somme incommensurable de souffrances, des souffrances qui perdurent toujours. Des centaines de victimes qui, chaque jour, vivent avec ces souffrances, ils nous l'ont dit. Et donc ce sont ces souffrances aussi qui seront exprimées lors de ce procès. Ce sera un moment extrêmement fort, j'en suis tout à fait persuadé. Puis également un moment inattendu. Nous ne savons pas ce qui va être dit à l'audience par ces victimes.
Il y a toujours des surprises dans la cour d'assises.
Il y a toujours des surprises. Je pense par exemple assez récemment au procès des attentats du mois de janvier, où il y a des moments extrêmement forts, comme cet employé d'une société de maintenance qui a eu son collègue tué par un des frères Kouachi à ses côtés et qui l'a pris dans ses bras jusqu'à son dernier souffle. Ce sont des moments qui sont parfois inimaginables, inracontables, mais qui se produisent dans la cour d'assises. Alors, oui, il y aura ces moments d'émotion très forts, mais il n'y a pas que cela. C'est un procès très particulier. C'est un procès très particulier, pourquoi ? Parce qu'il touche chaque Français. Chaque Français savait qu'il pouvait, ce soir-là, aller avec des amis, boire un verre à une terrasse. Il pouvait se rendre à un match, il pouvait aller à un concert. C'est donc chaque Français qui va se sentir touché aussi par ce procès.
On peut s'attendre, on vous entend ce matin, on doit s'attendre à beaucoup d'émotions. Ce ne sera pas uniquement le langage du droit qui va parler dans un tel procès. Il y a beaucoup de victimes, beaucoup d'émotions. Comment on apprend quand on porte l'accusation, et ce seront 3 magistrats du parquet national antiterroriste que vous dirigez qui le porteront, à mettre de côté l'émotion?
On ne met jamais véritablement totalement l'émotion de côté. Mais il faut revenir à notre métier, tout simplement. Porter le droit, porter l'accusation, c'est-à-dire dire la vérité, dire le dossier au plus près, amener et présenter les charges contre chacun des accusés, parce que n'oublions pas, ça restera malgré tout un procès comme tous les autres, c'est-à-dire d'abord juger. Juger des accusés pour lesquels il y a des charges, les présenter ces charges et donner aussi la parole à ces personnes.
Il y a 20 accusés, mais 14 présents seulement. Parmi eux, évidemment, Salah Abdeslam, le seul survivant du commando du 13 novembre. On rappelle qu'il avait jeté sa ceinture d'explosifs au dernier moment. On ne sait pas si c'est parce qu'elle ne marchait pas, comme il le dit, ou si c'est parce qu'il a renoncé au dernier moment à se faire exploser, à se faire sauter. Peut-il sortir de son mutisme, Salah Abdeslam ? Peut-il sortir de son silence ou il ne faut pas s'y attendre ?
2 éléments qui peuvent peut-être permettre d'approcher ce qui va se produire. Le premier, c'est que, effectivement, lors des procès d'assises, et notamment en matière de terrorisme, on ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Donc dire, voilà, c'est ainsi que ça va se passer, ça me semble très présomptueux. En revanche, il y a l'expérience. Moi, je connais un peu les affaires de terrorisme depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu. Un seul terroriste s'expliquer complètement, réellement devant une cour d'assises. Soit ils se taisent, soit ils utilisent des arguments dilatoires, soit ils se contentent de prononcer des paroles de principe, des revendications de principe idéologiques.
Jamais un terroriste n'a dit la vérité ou n'a dit des choses importantes dans un procès d'assises. C'est toujours décevant.
De mémoire, j'ai toujours trouvé ça très décevant. Je vous prends un tout dernier exemple, qui est certainement un des procès qui se rapproche le plus de celui que nous allons connaître, celui de l'attentat du Thalys, puisqu'il était également organisé par le même Abaoud. Vous aviez l'auteur direct de l'attentat qui était devant la cour d'assises. Il n'a strictement rien dit d'intéressant.
Pascale Robert-Diard, la spécialiste justice du Monde, posait dans le Monde justement cette question que je trouvais intéressante, que je vous livre. Faut-il juger celui qui est l'ennemi public numéro un, Salah Abdeslam, comme un ennemi ou comme un justiciable? Le droit pénal libéral va-t-il supplanter le droit pénal de l'ennemi? Jusqu'à quel point notre code judiciaire va-t-il l'emporter sur le code guerrier?
Pour moi, il n'y a strictement aucun doute. Il faut le juger comme un justiciable. Il va être jugé par un état de droit qui va utiliser les armes du droit et qui va justement lui permettre à celui-ci, mais comme à tous les accusés, de s'expliquer s'il le souhaite, d'utiliser toutes les voies de droit qu'il pourrait souhaiter voir présenter, d'avoir une défense active, et elle le sera certainement pendant tout le procès, et in fine, d'être jugé conformément à la loi.
Donc justiciable comme un autre.
Justiciable comme un autre.
Les autres accusés, qui sont-ils? Quels ont été leurs rôles?
Vous avez différentes personnes qui sont renvoyées de différentes qualifications. Soit certains sont considérés comme des complices, et ils sont également poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, soit d'autres sont un peu plus loin, ils sont alors renvoyés uniquement du chef d'association de malfaiteurs terroristes. Mais on est quand même, ici on n'est pas du tout très loin des faits. On est avec des accusés qui se rapprochent très précisément des faits qui ont été réalisés cette nuit-là.
Les victimes, qu'est-ce qu'elles peuvent en attendre de ce procès face à ce que vous racontez, au mutisme probable des terroristes ou de Salah Abdeslam? Qu'est-ce que toutes ces victimes, je disais, il y a 1800 parties civiles, des familles qui ont été des victimes directes d'abord, des blessés, et puis des familles qui ont été blessées et qui traînent le souvenir et qui ont besoin de réparation. Qu'est-ce qu'elles peuvent en attendre?
Traditionnellement, les victimes de ce type de procès attendent deux choses. D'abord, pouvoir s'expliquer, exprimer. Elles y arrivent pour beaucoup d'entre elles. D'autres préfèrent se taire, mais beaucoup ont envie de parler. Et puis, elles vont vouloir aussi comprendre. Parce que ça va être un procès qui aura également cette finalité, permettre de s'approcher au plus près de la vérité. Comprendre comment ces individus ont été recrutés, comment pour la plupart d'entre eux ils se sont rendus en Syrie, comment ils sont arrivés jusqu'en Europe et comment ils se sont préparés. Donc comprendre.
Mais ça veut dire comprendre aussi les ratés des services de l'État, les ratés des services de renseignement. C'est ça qu'on voit aussi dans cette enquête tentaculaire. C'est qu'à plusieurs reprises, ils ont failli arrêter Abaoud à Athènes, mais qu'il y a eu un problème de concertation des services de renseignement européens, puisque la police belge a au même moment lancé une opération sur d'autres commandos. Comment c'est possible que ces membres du commando qui étaient condamnés pour beaucoup, qui étaient fichés, qui étaient surveillés, ont pu pénétrer en Europe? Est-ce que toutes ces questions-là, théoriquement, c'est pas le rôle d'une cour d'assises de juger ces questions, les défaillances des services de l'État? Mais est-ce que ce ne sera pas là pendant tous ces 9 mois du procès?
Je pense que toutes ces questions seront au procès. Elles seront évoquées. Mais je voudrais revenir quand même sur quelques éléments que vous venez d'évoquer. En 2015, la situation était très particulière. L'État islamique était au fait de sa puissance. Il avait des moyens considérables, y compris financiers. Il y avait des vagues de migrants par centaines de milliers à travers l'Europe. Et effectivement, quelques-uns d'entre eux ont pu profiter de ces vagues de migrants pour traverser l'Europe et s'installer en Belgique.
Jean-François Ricard, y a-t-il un risque d'augmentation de la menace terroriste pendant ces 9 mois de procès? On se rappelle que l'assassinat de Samuel Paty a eu lieu en plein procès Charlie Hebdo, ainsi que l'attaque de la rue Nicolas Appert à Paris. Est-ce que vous craignez des attentats au cours de ces prochaines semaines, de ces prochains mois?
La seule chose que je peux affirmer, c'est que nous serons extrêmement vigilants, que les services de renseignement le sont, que les services de police judiciaire le sont également. Mais il n'y a pas de signe particulier aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, de préparatifs d'actions terroristes visant notre territoire.
La menace terroriste n'a pas augmenté à l'approche de ce procès?
Non, la menace terroriste reste à un niveau très élevé. Nous avons dû, au cours des 2 dernières années, faire face à 6 attentats. Nous avons réussi à en déjouer 5. Nous continuons régulièrement à ouvrir des enquêtes. Je vous rappelle que le parquet antiterroriste, depuis sa création, en 2 ans, a ouvert près de 140 enquêtes, soit plus de 60 instructions. Donc, il y a un travail considérable qui est réalisé. Nous allons continuer à le faire, nous allons continuer à être vigilants, mais je ne peux pas dire qu'il y aura une période d'un calme total, bien évidemment.
Voilà, ce procès monstre, ce procès hors norme, donc des attentats du 13 novembre qui va s'ouvrir ce mercredi à Paris, qui va durer 9 mois. On va le suivre évidemment sur nos antennes tous les jours. Merci. Merci Jean-François Ricard d'être venu ce matin nous expliquer comment ça va se passer et ce qu'il faut en attendre. Merci et belle journée à vous.
Merci.